Oh, c'est vrai, n'est-ce pas? Seigneur, je reçois. Recevoir quoi? Chaque promesse qu'il a faite, ça m'appartient. Maintenant, avant de nous asseoir, courbons la tête un instant. Comme ça, je n'oublierai pas de prier sur ces mouchoirs qui sont ici. Notre Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir pour les cantiques de Sion, pour l'évangile à l'ancienne mode qui purifie nos cœurs du mal, et de ce que les promesses pleines de grâce de la Bible nous appartiennent. Par la foi, nous les recevons, et nous savons que Dieu ne fait pas exception de personne. Et dans la génération dans laquelle Paul a vécu, les gens, il y avait un grand nombre de malades. On lui apportait des mouchoirs, des linges, afin qu'il les mette sur son corps. Et ensuite, on prenait les mouchoirs et les linges qui avaient touché son corps pour les appliquer sur les malades et les affligés. Et les Écritures nous disent que les esprits impurs sortaient des gens et que les afflictions les quittaient à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus. Ô Dieu, ça fait déjà presque 2000 ans que Paul est parti pour retourner dans ta présence. Cette génération-là est passée avec lui, mais tu es le Dieu de toutes les générations. Maintenant, ce soir, les gens ont cru en toi, et nous te remettons ce soir ces mouchoirs et ces petits paquets, et nous croyons de tout notre cœur que tu exauceras notre prière et qu'ils seront guéris. Accorde-le, Seigneur. Nous les leur envoyons pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, son Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir, et ceux qui les ont placés ici peuvent venir les chercher immédiatement après la fin de ce service. Je suis très heureux ce soir. Je suis allé là-bas, dans la montagne aujourd'hui, dès que j'ai terminé les entretiens que je devais avoir, et je suis allé là-bas pour prier. Et chaque fois que j'arrive sous ce soleil du désert, ça me donne envie d'y revenir plus souvent. Mais une chose me réjouit ce soir. Ma femme, bien que nous ayons été longtemps ensemble, et elle a vu de grandes visions de Dieu se manifester et s'accomplir. Elle était au bord de la rivière ce jour-là, à Jeffersonville, quand l'ange du Seigneur est apparu pour la première fois. Ça avait été transmis par la presse associée partout dans le pays. C'était en 1933. Elle était présente, mais elle avait entendu la voix, mais n'avait pas vu la lumière. Alors que même les photographes de journaux ont vu la lumière. Mais elle était très jeune à l'époque. Elle avait environ 12 ans. Et elle n'avait pas vu la lumière. Elle regardait les gens, beaucoup s'évanouissaient, et s'est juste restée là à peu près une minute, puis s'est retournée directement dans les cieux. Et les journaux ont publié un excellent article. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local, pendant qu'il baptise. Ça avait été diffusé jusqu'au Canada. C'était dans la presse canadienne. Ensuite, il y a environ 3 ou 4 ans, la dernière fois que j'étais à Phoenix, je crois que c'est frère Jack Moore qui était avec moi et qu'il avait plus ou moins... Ma femme est très timide. Alors, il l'avait appelée sur l'estrade, à l'improviste, et elle avait failli s'évanouir. Et elle était venue après que j'étais déjà monté sur l'estrade. Et l'onction était là pour un service de guérison. Et elle a dit, c'était la toute première fois qu'elle était dans cette présence, comme ça. Et avant-hier soir, elle l'a vue sur l'estrade. C'est la toute première fois qu'elle l'a vue, alors que c'était là, sur l'estrade. Et quand je l'ai rejointe à l'extérieur, elle avait les larmes aux yeux. Et elle a dit, Billy, pour la première fois de ma vie, je l'ai vue. Elle a dit, tu priais pour une femme. Et elle a dit, je l'ai vue venir là, devant elle, et rester là quelques instants, se déplacer là où tu te trouvais. Et puis, dès que tu as cessé de parler, cela est parti. Donc, j'en suis heureux que cela ait apparu devant ses yeux. Voyez, cette petite femme a beaucoup de choses à supporter. Alors je suis content et heureux de cela. Bon, demain soir, c'est un service de guérison. Vous savez, on a dit cette semaine que les services de guérison auraient lieu vendredi soir. Eh bien, venez demain après-midi ou tôt dans la soirée, vers 18h, pour ne pas nuire à l'autre partie de la réunion. Et Billy, Léo, Jean et les autres seront ici avec des cartes de prière, pour vous donner une carte de prière. Ça, c'est quand nous amenons les gens sous l'estrade et que nous prions pour eux. Or, nous sommes, pour les séries de réunions aux États-Unis, je dois procéder de la façon dont les gens ont été enseignés, l'imposition des mains. Eh bien, c'est l'Écriture, mais c'est une tradition juive. Ça, ce n'est pas pour les gens des nations, mais les gens des nations l'ont perpétué. Pour les gens des nations, c'était « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, prononce simplement la parole, et mon serviteur vivra. » C'est vrai. Mais pour les Juifs, viens, impose les mains à ma fille, et elle vivra. Voyez, ça, c'était leur tradition. Ce n'était pas pour les gens des nations. Soir après soir, et heure après heure, pendant le jour et pendant la nuit, le Saint-Esprit vient, il révèle, il traverse le bâtiment, il dit quels sont les secrets des cœurs. Vous le voyez tout le temps. C'est pour vous faire savoir que la présence du Seigneur est là. Maintenant, si vous voulez bien accepter cela, vous serez guéri à l'instant. En effet, toute la guérison qui doit être faite pour vous a déjà été accomplie. Et ce, depuis 1900 ans. Tout le salut que vous recevrez a déjà été payé. Cela vous appartient. Il vous suffit de le recevoir. Ça fait 1900 ans, voire plus, que c'est devenu salut pour vous. Mais alors, vous remarquez que dans les réunions, je dis, est-ce que cela vous amènera à croire? Voyez, les signes et les prodiges ne sont ni pour la guérison, ni pour le salut, mais c'est pour que les gens prennent conscience et comprennent que la présence de Dieu est là. Alors, comment ce serait? C'est un plus grand miracle. Nous commençons à peine à voir des miracles maintenant. Et là, quand il s'agit d'une personne, plusieurs se sont levés de civières, de fauteuils roulants et tout, et sont sortis. Ça, ce n'est pas vraiment un miracle. Non. Voyez, ça, même la science chrétienne a cela. Il pourrait s'agir d'une condition mentale que vous pourriez, qui changerait votre façon de voir les choses. Eh bien, nous ne croyons pas que c'était le cas, parce que moi, je crois que c'était la foi. Et pourtant, je me trouvais en Alsace-Lorraine, en France. J'étais à Paris, et je suis allé à l'endroit où on avait inhumé une femme morte. Elle reposait là. Et on y frottait une pierre. Les gens y entraient avec des infirmes, avec des béquilles, et on les étendait là, et ils repartaient sur leurs pieds pour avoir frotté cette pierre sur cette femme morte. Voyez, elle est morte, et elle ne pourrait pas plus intercéder que... Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Étant moi-même issu d'une famille catholique, je sais qu'ils croient en ceux qui meurent, que ce sont leurs esprits qui intercèdent pour eux. Il y en a de toutes sortes, certains pour la politique et d'autres pour autre chose. Pour moi, c'est du spiritisme. Je ne vous blesse pas, j'espère, mais je dois être honnête. Voyez-vous, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est du spiritisme. On m'a posé cette question au Mexique et ils ont dit, « Qu'en est-il de Jésus ?» J'ai dit, « Il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. » Voyez, il n'est pas mort, il est vivant. Les autres, eux, sont rendus de l'autre côté. Et l'Écriture dit que ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici et ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. Aucun homme n'est jamais passé de l'autre côté ou ne le fera jamais. Alors, c'est réglé. Si... Jésus l'a dit. Mais nous voyons ces choses se faire. Alors maintenant, et chaque soir, le Saint-Esprit essaie de vous amener dans la présence de son être, ici, pas dans la présence d'un homme. L'homme, lui, ne peut que s'humilier. Au moyen d'un don, il peut se soumettre à une certaine dimension de l'Esprit qui peut faire que Dieu se dévoile sous vos yeux. Mais il ne se produira jamais rien, à moins que vous le croyiez de vous-même et que vous l'acceptiez. Là, il se produira quelque chose. Voyez, si vous vous teniez là et que chacun de vous refusait de croire, n'en croyez pas le moindre mot, il ne se produirait jamais rien. Jésus, quand il est allé vers les siens, dans son propre pays, il n'a pas pu faire beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Et s'il n'a pas pu les faire dans ce temps-là, il ne peut pas non plus les faire aujourd'hui à cause de l'incrédulité. Voyez, ce qui compte, c'est votre foi. Donc, ce qu'il faut, c'est vous et moi, avec le Saint-Esprit, pour que ces choses s'accomplissent, pour que je me réjouisse, pour que vous vous réjouissiez de savoir que Dieu est ici et qu'il tient sa parole. Mais quand le Saint-Esprit peut venir dans la réunion en accomplissant de façon parfaitement conforme à l'Écriture ce qu'il a dit qui arriverait dans les derniers jours, et parcourir l'auditoire comme il l'a fait quand il était ici, et discerner les secrets même des cœurs, les pensées et les intentions du cœur et de l'esprit, comment quelqu'un pourrait-il douter? Voyez, voilà un miracle parfait. C'est un miracle plus grand qu'un infirme qui marche, parce qu'il est impossible que cela se produise sans une puissance spirituelle. Il faut que ce soit une puissance spirituelle pour le faire. Bien, et alors, vous voyez ceci comme étant exactement ce que la Bible a promis, ce qu'il croit, ce que nous croyons. C'est un plus grand miracle que de pousser des cris, voyez. C'est un plus grand miracle que de parler en langue. Paul l'a dit. Même les dons authentiques du Saint-Esprit, du parler en langue, c'est un plus grand miracle que tout ça. Nous en sommes au dernier miracle. C'est comme ça que la Bible l'a prédit. Alors, ce soir, vous n'avez pas à attendre jusqu'à demain soir pour passer dans la ligne, pour qu'on vous impose les mains. Or, le fait de vous imposer les mains ne vous sera pas plus profitable que le discernement des pensées du cœur. Pas autant, selon moi. Là, vous pouvez simplement le recevoir, vous accrocher à cela, c'est à vous. Et vous croyez à cela de tout votre cœur. Mais demain soir, si vous, l'Écriture dit bien, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Tous les signes. Puis, enfin, il a dit, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est vrai. Cela accompagnera les croyants. Très bien. Or, nous sommes des croyants. Alors, c'est pourquoi, soir après soir, nous imposons les mains aux malades. Et Dieu a accompli de grands miracles comme ça. Nous avons eu de grands miracles avec la prière sur les mouchoirs. Nous avons eu de grands miracles avec le discernement des pensées du cœur. Voyez, toutes ces choses œuvrent pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Bon, avant d'ouvrir la parole maintenant pour ce soir, oh, nous pouvons tourner les pages comme ceci, mais c'est Dieu qui doit l'ouvrir. Car l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, mais le Saint-Esprit qui a écrit l'Écriture en est l'interprète. Alors, courbons la tête maintenant pendant que nous prions. Et combien voudraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière? Voulez-vous le faire connaître en levant simplement les mains? Peu importe ce que c'est. Oh Dieu, regarde. Nous sommes tous dans le besoin, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai des besoins, mes amis. J'ai les mains levées. Père céleste, humblement, doucement et avec respect, nous venons de ta grande et auguste présence, sachant, avant qu'une seule chose arrive, tu es ici, parce que tu l'as promis. Avant ton départ, tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai là, au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent sur une seule chose et qu'ils la demandent, ils la recevront. Seigneur, pour apporter ta promesse à ceux que tu t'es acquis par ton sang, je demande que chaque homme, femme ou enfant qui a levé la main ce soir, tu connais leur cœur, puisse-t-il recevoir ce qu'ils demandent. Accorde le Seigneur. Nous sommes un peuple dans le besoin. Nous marchons dans un monde de ténèbres où il y a ton grand ennemi, sachant que nous ne pourrions pas du tout lutter contre lui sans ton Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons confiance, nous croyons et nous agissons par la foi, sachant qu'il marchera devant nous et qu'il nous montrera clairement le chemin. Il y a tant de pièges le long de la route, tendu à nos pieds fatigués, mais nous essayons de suivre les empreintes de pas ensanglantés de celui qui a vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe. Guide-nous ce soir par ton Saint-Esprit, Seigneur, vers les paroles qui devraient être dites. Puis guide ces paroles vers le cœur qui en a besoin. Et Seigneur, à la fin de la réunion, comme nous nous dirigerons vers nos différentes maisons, puissions-nous dire encore, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Amen. Pour vous qui notez les passages de l'Écriture, prenez avec moi maintenant le livre de 1 Roi. J'aimerais lire un extrait du verset 17, chapitre 17 plutôt. Et je vais commencer au verset 14. Lisons les versets 14, 15 et 16 du chapitre 17 de 1 Roi. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house.
Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ça devait être presque le lever du jour quand elle a été réveillée. Elle a tourné sa tête fatiguée sur l'oreiller quand elle a entendu un petit cri mélancolique traverser la chambre. Et elle n'avait pas pu dormir de toute la nuit. Elle était agitée à cause de cette grande tragédie. Le petit garçon venait encore de se réveiller. Il n'avait pas dormi plus de 20 ou 30 minutes. Et je peux entendre sa petite voix dire, « Maman, veux-tu bien aller regarder encore dans le garde-manger pour voir s'il n'y a pas un tout petit morceau de pain? J'ai tellement faim. Je n'arrive pas à dormir. » Et comme elle regardait son petit visage, avec ses petites joues creuses, ses petits yeux qui jaunissaient, ses longs cheveux qui pendaient parce qu'on ne les avait pas coupés, sa petite chemise de nuit en lambeaux, de grosses larmes qui coulaient de ses yeux venaient s'écraser sur le petit visage de son fils, alors qu'elle lui caressait la joue et disait, « Mon trésor, essaye de dormir et de comprendre. » Cela faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Elle s'est agenouillée. Je la vois criant à Dieu, disant, « Ô éternel Dieu, Jéhovah, tu es le Dieu de nos pères, qui a nourri tes enfants et a pris soin d'eux au fil des années. » Et j'ai essayé de mener une vie juste et droite devant toi. Et maintenant, me voici. Je vois mon petit garçon réclamer quelque chose à manger et je n'ai rien à lui donner. Cela fait déjà bien des semaines que nous nous privons jusqu'à ne prendre qu'un seul repas tous les 3 ou 4 jours. Et maintenant, il ne reste plus rien qu'une petite poignée de farine et juste une cuillerée d'huile. Et j'essaye de tenir jusqu'au matin, de sorte que nous ne mourions pas pendant la nuit. Qu'ai-je fait, ô Dieu? Moi, ta servante, je suis restée fidèle. J'ai perdu mon mari dans la bataille pour l'Éternel. et je suis veuve depuis déjà plusieurs années. Et j'ai essayé de mener une vie droite et d'observer tes commandements. Et si mon heure a sonné, ça m'est égal. Mais mon petit garçon, ça me brise le cœur de l'entendre réclamer de quoi manger, alors que je n'ai rien à lui donner. Quand elle a fini de prier, elle s'est levée. Il s'était rendormi quelques instants. Et elle avait les bras levés. La chemise de nuit en lambeaux qu'elle portait était presque fichue. Elle est allée à la fenêtre et a regardé dehors. Le soleil était presque levé. Oh, il faisait très chaud. Les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était sous le règne d'Akab, le roi le plus cruel et le plus méchant d'Israël. Et il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte comme celui-là ne réussit jamais. C'est tout simplement impossible. Soit c'est la femme qui suivra l'homme, ou c'est l'homme qui suivra la femme. Et c'était une petite femme très séduisante. Et Akab, une sorte de croyant tiède, qui s'était soumis à ses idées à elle, en disant, « Oh, eh bien, la religion, ça ne représente rien pour moi. Je suis un roi. » Et ils avaient déjà renversé les autels de Dieu, élevé les autels au Baal, ou à Baal plutôt. Et ce cri contre la vraie religion avait été tellement fort que, sous cette grande tension, les prédicateurs avaient cédé. Il y a quelque temps, j'ai fait une remarque au sujet des prédicateurs d'aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. Et un groupe d'entre eux est venu me voir, et ils ont dit, « Frère Branham, nos assemblées font vraiment pression sur nous. C'est à cause de ça. L'assemblée partira si le prédicateur ne fait pas ce qui plaît aux membres. » Et les prédicateurs étaient déjà tombés sous l'influence du roi, parce que le péché était permis. Il n'y avait plus de limites. C'est une très bonne image d'aujourd'hui, parce que la nation avait approuvé ces choses. Les gens voulaient être populaires. Ils se disaient, tant que c'est la nation qui l'a dit, il n'y a pas de mal à ça. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Tant que c'est la nation qui dit qu'il n'y a pas de mal à vendre de la bière, alors il n'y a pas de mal à la boire. Si la nation autorise nos femmes à être à moitié vêtues dans la rue et que la loi ne leur tombe pas dessus, eh bien, il n'y a pas de mal à le faire. Il n'y a peut-être pas de mal à ça aux yeux de la nation. Mais dans les grands livres de Dieu, vous êtes responsables et vous aurez à répondre devant Dieu. Mais ils étaient tombés. Ils avaient dû céder sous cette pression. Et la nation prospérait, et ils pensaient que la prospérité était un signe que Dieu était avec eux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dieu vient vers vous. Il y a un vieux proverbe, un proverbe qui déshonore Dieu, qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça, ça n'honore pas Dieu. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Il est le Dieu de ceux qui ont besoin de miséricorde. Et il est un Dieu miséricordieux. Et ce proverbe qui dit qu'il aide ceux qui s'aident, si vous pouvez vous aider, vous n'avez pas besoin de son aide à lui. Mais il aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Mais cette nation se disait que tant qu'ils mangeaient bien et qu'ils étaient bien vêtus, tout irait bien. Mais il y en avait un qui était resté vieux jeu, qui croyait qu'il y avait un Dieu qui était vieux jeu, qui croyait qu'il y avait un Dieu qui tenait sa parole, qui croyait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était saint, et qu'il exigeait un abandon total à sa sainteté. Mais Jézabel et sa bande moderniste le haïssaient. Il était leur pasteur, mais ces gens n'y croyaient pas. Alors il devait se cacher pour sauver sa peau. Et Dieu l'avait envoyé sur la montagne et lui avait donné un message et a dit, « Descends et dis à ce méchant roi, ainsi dit le Seigneur, il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ta parole. » Il a mis dans la bouche d'Élisée le pouvoir de faire venir la pluie au moment opportun. Mais c'est lui qui avait les clés du ciel. Il pouvait le fermer ou l'ouvrir. Et il lui a dit, « Je veux que tu sortes du désert, de ce, que tu ailles dans le désert plutôt, que tu sortes de ce chaos, sors du milieu d'eux. » Il leur a prêché et ils n'ont pas voulu t'écouter et ils empirent continuellement. « Va dans le désert et là, installe-toi près du torrent de Kérit et j'ai déjà ordonné aux corbeaux de s'occuper de toi. » Oh, si les gens refusent de le faire, Dieu a des corbeaux qui peuvent le faire. Jean a dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a dit, j'ai ordonné aux corbeaux, et ce sont eux qui te nourriront. Et il lui a porté de la viande et du pain. Un jour, quelqu'un m'a dit, « D'où les prenait-il, frère Branham ?» J'ai dit, « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il les apportait. Ils les ont trouvés au même endroit que Jésus, quand il a pris 5 poissons et, ou 5 pains et 2 poissons, et qu'il a nourri 5 000 personnes. Cela provenait de la même main créatrice du Dieu Tout-Puissant. Il lui apportait du poisson et du pain, ses corbeaux. Il se posait, les remettait à Élisée et les mangeait, et se penchait pour boire à la fontaine. Dieu accordait du repos à son prophète. Oh, je suis très heureux que Dieu ait un moyen d'échapper. Et alors, qu'on pensait qu'il était fou, ce vieux prophète, une espèce de rabat-joie, il cherchait toujours à dépouiller de toute joie les petites fêtes joyeuses qu'ils organisaient en leur disant que c'était un péché. Et Dieu, comme il exécutait la commission de Dieu, il est monté au sommet des montagnes et s'est assis sur une hauteur, l'endroit le plus sec de la région. Mais Dieu a fait que ce ruisseau puisse continuer de couler. Et eux, ils étaient en bas à se mordre la langue par soif d'eau. Vous savez, Dieu a sa façon d'exaucer les prières. Cette petite femme avait mené une vie fidèle. Elle ne s'était pas remariée. Elle restait seule pour rencontrer son mari dans la gloire. Elle était une femme honorable. Et pendant des semaines, la farine dans le pot ne faisait que diminuer et diminuer. Et elle continuait de prier. Pourtant, il semblait n'y avoir aucun espoir nulle part. Vous savez, on pourrait tirer une leçon de tout ça. En effet, si vous avez prié et que vous avez rempli toutes les conditions fixées par Dieu et qu'il reste silencieux, qu'il ne dit rien et que pourtant vous avez rempli les conditions, eh bien, que se passe-t-il alors? Si vous savez que vous avez rempli ces conditions et que vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, alors la foi ne chancelle pas. Elle reste tranquille. Elle pense aux choses positives. La foi s'accroche éternellement au rocher des âges et elle ne bouge pas. Ce grand gaillard, appelé foi. J'ai souvent dit, la foi a des poils sur le torse. Quand lui, il parle, tout le reste se tait. Quand la foi dit, taisez-vous, alors tout s'arrête, parce que c'est lui le patron. Et elle avait rempli toutes les conditions. Elle avait mené une vie sans tâche. Elle avait mené une vie exemplaire. Elle avait mené une vie honorable. Et elle avait satisfait à toutes les exigences de Dieu. Mais il semblait silencieux. Dieu fait ça parfois pour vous éprouver, pour voir comment vous allez réagir. N'oubliez pas ça. Si vous passez sur l'estrade, qu'on prie pour vous et qu'on vous impose les mains et qu'il semble que rien ne se passe, cela n'arrête pas du tout la foi. Vous avez rempli les conditions fixées par Dieu. Bon, si vous les avez remplies. Par contre, si vous n'avez pas tout abandonné à Dieu, vous savez que votre cœur vous condamne. Et nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous obtenons. Or, mais si notre cœur nous condamne, inutile de passer sur l'estrade, inutile de demander quoi que ce soit à Dieu, parce que vous n'avez pas la foi pour le recevoir. Mais quand vous avez rempli toutes les conditions exigées par Dieu, alors la foi s'avance là et dit, « Dieu est Dieu, j'ai rempli les conditions. » L'Écriture dit, « Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser, marcheront sans s'épuiser. » Comme le cantique le dit, « Seigneur, enseigne-moi, ô Seigneur, enseigne-moi la patience. Lave mon âme dans le sang du calvaire. Remplissons toutes les conditions. Brûlons tous les ponts autour de nous et disons, « Maintenant, Seigneur, je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix je veux m'accrocher. Tu l'as promis, Seigneur. » Voilà la condition dans laquelle il faut être. C'est pour ça que les gens pensent que je suis isolationniste. Mais dans la pièce ou là-bas, de l'autre côté du désert, voilà la condition dans laquelle vous devez être avant de venir à cette chair, ici. En effet, Satan y introduit toujours des petits démons pour essayer de bouleverser quelque chose. Et vous devez vraiment vous accrocher à la croix, ne pas mettre votre confiance dans votre capacité personnelle, vos propres pensées, mais en vous appuyant simplement sur le bras éternel. Vous ne prétendez pas avoir une quelconque intelligence, vous ne prétendez pas avoir votre propre pensée. Vous vous ouvrez tout simplement et vous laissez le Saint-Esprit parler. Voilà la condition dans laquelle Dieu veut que son Église soit. Mettez-vous dans cette condition-là. Dieu vous éprouve. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, châtié, pour voir s'il peut supporter le châtiment. Si vous vous avancez et que vous dites, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. » Il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Quand vous dites cela, en ayant confessé tous vos péchés et vos iniquités, vos capacités et tout ce que vous avez, déposez-les sur l'autel. Alors là, ne prenant rien avec vous, Satan va lancer toutes les flèches possibles sur vous. Mais alors, si vous vous détournez de là et que vous dites, « Eh bien, peut-être que je n'ai pas été sauvé, peut-être que je n'ai pas été guéri », puis que vous vous en détournez, la Bible dit que vous êtes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Dieu met à l'épreuve chaque fils d'Abraham, comme il l'a fait avec Abraham. En effet, nous sommes la postérité d'Abraham. En étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. La postérité d'Abraham, ça, c'est l'esprit qu'Abraham avait. La promesse lui avait été donnée. Et si notre Père a fait confiance à Dieu et qu'il a pris une promesse, quelque chose d'impossible, et qu'il s'y est accroché pendant 25 ans avant qu'elle se manifeste, devenant de plus en plus fort, sa semence est tout à fait comme le Père. Quoi qu'il advienne, quand on prie pour vous, c'est réglé. Quand nous ôtons tout du chemin, que nous avons rempli toutes les conditions, que nous ôtons tout du chemin, alors demandez à Dieu et restez là, sachant que vous allez le recevoir. C'est comme ça que Dieu a mis Job à l'épreuve. Quand Job a demandé la miséricorde, il a offert un sacrifice pour ses enfants. Tout ce que ce prophète avait, c'était un holocauste. Mais c'était tout ce que Dieu exigeait. Dieu n'exige pas l'instruction et un tas d'absurdités. Il exige un cœur soumis à sa volonté. Il ne vous demande pas de vous habiller d'une certaine façon, ni de fréquenter certaines choses ou certaines universités, ni d'obtenir des diplômes. Ce qu'il demande, c'est un esprit humble, contrit, brisé, et un cœur disposé à le recevoir. Il a mis Job à l'épreuve pour voir quel genre de réaction il verrait en lui. Mais quand il lui a pris ses brebis, ses bœufs, et a pris ses chameaux, et a pris ses enfants, je vais voir ce que Job va dire maintenant. Et il a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Il a trouvé en Job ce qu'il avait déclaré à Satan. Personne comme lui sur la terre. Alors le tonnerre s'est mis à gronder. Les éclairs se sont mis à briller. L'Esprit est venu sur le prophète et il s'est écrié, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Il a mis les enfants hébreux à l'épreuve pour voir quel genre de réaction ils auraient. Ils avaient confessé parmi les païens qu'il y avait un Dieu vivant, qu'il y avait Dieu, Jéhovah, et qu'il était le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et qu'il tenait toute âme dans sa main. Alors, Dieu avait permis qu'ils soient mis à l'épreuve. Ils avaient satisfait à toutes les exigences. Ils s'étaient mis en condition par la prière et avaient tout ôté du chemin. Et ils ont refusé de se prosterner devant l'image du roi. Et il a chauffé la fournaise 7 fois plus que jamais. Et sans doute, Satan essayait-il de leur dire, « Vous êtes au bout du chemin. » J'aime la façon dont ils ont parlé. Notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais quoi qu'il en soit, même s'il ne le fait pas, nous ne briserons pas les commandements de Dieu. Nous resterons fidèles. Que notre foi retentisse à travers les années à venir. Nous sommes restés fidèles à la promesse de Dieu. Mon Dieu peut me guérir de ceci, ou mon Dieu peut me relever de ce fauteuil roulant. Mon Dieu peut faire ceci. Je l'ai accepté comme mon guérisseur. J'ai confessé mes péchés, mon incrédulité, et j'ai confessé que je crois qu'il est mon guérisseur. Advienne que pourra, si je ne suis pas en bonne santé aujourd'hui, je le serai demain. Si je ne le suis pas demain, je le serai l'année prochaine. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, voilà, c'était ça. Quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, ils subissaient une épreuve, ils subissaient un test. Ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Mais Dieu, en un clin d'œil, est arrivé et il les a délivrés. Ils savaient qu'ils s'étaient mis en condition par la prière. Leurs péchés étaient confessés. Ils savaient qu'ils avaient satisfait à toutes les exigences. Et pourtant, il avait semblé être silencieux. Il n'est silencieux que pour vous tester, pour voir ce que vous êtes vraiment, ce qu'il y a au-dedans de vous, pour voir si ce que vous dites de vos lèvres vient vraiment de votre cœur, que ceci pénètre profondément. Nous pouvons le dire de nos lèvres, mais est-ce que notre cœur le dit aussi? Or, alors que cette petite femme savait qu'elle avait rempli toutes ses conditions, Dieu était resté silencieux. Il semblait qu'il ne se souciait même pas d'elle, que ça lui était égal qu'elle vive ou qu'elle meure. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu était à l'œuvre. Elle ne le savait pas, mais Dieu avait parlé à Élie. Il avait desséché le torrent. Il avait étendu la main et avait empêché le torrent de couler. Élie a dit, « Seigneur, pourquoi a-t-il arrêté de couler ?» Il a dit, « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il le lui avait déjà ordonné. Elle ne le savait pas. Il a peut-être ordonné pour vous un témoignage de votre guérison. Vous ne le savez peut-être pas, mais tenez simplement bon. Quand vous êtes certain que vous avez rempli toutes les conditions, quand vous savez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que vous vous êtes mis devant Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire. S'accrocher alors à sa promesse. Ne bougez pas de là. Dieu a promis de répondre. Il le fera. Vous ne savez pas ce qu'il a ordonné, quel ange ou quoi faire. Ce sera peut-être cette nuit, avant le début du service de guérison demain soir. Peut-être Dieu a-t-il vu votre condition aujourd'hui. Il a peut-être entendu votre prière. Ça m'a fait tellement de peine pour ces gens sourds et muets. Je voudrais leur imposer les mains et prier pour eux. J'ai commencé, je me suis arrêté hier soir, car je me suis dit que ça ne serait pas juste pour tous les autres. Mais comment puis-je savoir si quelque part, il n'y a pas un Dieu silencieux qui connaît les cœurs, que ces gens ont rempli les conditions exigées par Dieu, et qu'ils sont prêts, et qu'il y a un ange ici ce soir pour les délivrer de toutes leurs afflictions? Comment puis-je savoir? Peut-être Dieu a-t-il ordonné leur délivrance ce soir, que je prie pour les malades, ou pas, ils la recevront, parce que c'est Dieu qui l'a exigé. Soyez sûrs de Dieu, puis tenez bon. Remplissez ces conditions. Dieu sait comment faire les choses correctement. Il sait comment les faire de la bonne façon. Or, c'est une chose très étrange que Dieu ait envoyé son prophète dans la maison d'une femme veuve. Quel endroit! Mais elle était sûrement une vraie femme vertueuse. Sinon, il n'aurait jamais envoyé son prophète là-bas. Oh, si une personne était digne, il fallait être quelqu'un de digne pour loger un homme comme Élie. Vous vous souvenez, c'était Zacharie qui, chez lui, avait été loyal et fidèle, attendant que Dieu leur donne un enfant. Et l'ange, Gabriel, est venu chez lui. C'était à la Vierge Marie, qui avait mené une vie pure et sans tache, et qui attendait une promesse de Dieu, qu'il a envoyé un ange. Vous fricotez avec le monde et flirtez avec le monde, puis vous vous attendez à voir des anges et obtenir des miracles. C'est en dehors du programme de Dieu. Vous devez mener une vie droite. Faites le ménage chez vous. Faites le ménage dans vos habitudes. Mettez-vous en règle quant aux choses du monde. Débarrassez-vous de vos cartes et de votre association mondaine. Préparez-vous. C'est alors que l'ange de Dieu pourra parler et dire « N'aie pas peur, c'est moi ». Alors, des choses arriveront. Mais cette petite femme était là, en train de prier, sans savoir que le prophète venait, qu'il descendait la montagne. Il avait eu une vision, lui disant où il devait aller. Dieu ne conduit pas son peuple aveuglément. Il leur dit où ils vont. Il observait la ville. Oh, c'était épouvantable. Les gens mouraient de faim et réclamaient de l'eau. Des gens affamés. C'est un reflet de l'immoralité. C'est un reflet du péché. Et cette nation va le payer cher. Vous ne pouvez pas. Les choses équilibrées, même la loi de la nature, ne la laisserait pas subsister. Alors que nous gaspillons de l'argent dans une vie de débauche, la moitié du monde meurt de faim. Ce sont tous des êtres humains pour lesquels Christ est mort. Voilà pourquoi j'ai les champs de mission à cœur. Vous avez de merveilleux ministres ici à Phoenix et partout aux États-Unis et dans les environs. Il y a des églises à tous les coins de rue, de grands hommes de Dieu, des services de guérison, de grands hommes comme Oral Roberts et d'autres grands hommes qui prêchent. Alors qu'il y a des gens là-bas qui meurent tous les jours par milliers, qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. De pauvres petits noirs, sales et affamés, au fin fond de l'Afrique et là-bas en Inde. De petits enfants couchés dans la rue, mourants, qui ne savent même pas ce que Dieu signifie. Et nous argumentons au sujet de nos petites divergences de croyances religieuses. Oh, ce n'est pas vraiment juste. Je ne pense pas, mes amis. Si vous avez à cœur de voir cela. Or, remarquez cette pauvre petite femme. Après avoir regardé par la fenêtre et vu que le jour était sur le point de se lever, elle était loin de se douter de ce qui l'attendait. Elle pensait que c'était la mort pour elle et son petit garçon. Donc, alors qu'elle dormait, observons-la quelques instants. Elle va, après avoir prié, elle place ses petits cheveux en arrière pour dégager ses yeux et dit « Mon petit chéri, tu ressembles tellement à ton saint et précieux papa. » Il avait vraiment mis sa confiance en Dieu. Il a donné sa vie pour la cause d'Israël sur le champ de bataille. Tu lui ressembles tellement. Et, trésor, je ne sais pas pourquoi les innocents souffrent avec les coupables, mais c'est le cas. Dans cette nation, les chrétiens souffriront à cause de l'injustice qu'il y a dans la politique. Cela fait souffrir la nation tout entière. Or, je peux la voir entrer et dire, « Je m'en vais de ce pas préparer un petit gâteau. J'ai juste assez pour un seul petit gâteau de pain. Et quand nous l'aurons mangé, alors nous mourrons. » Alors, la voilà qui entre dans la pièce et prend la farine qui était dans le pot de farine. Je peux la voir la racler avec cette petite main décharnée, alors qu'elle tapote le petit baril qui la contenait. Elle tape dessus jusqu'à la moindre poussière de farine. Et finalement, elle en a recueilli juste assez pour un seul gâteau. Elle se dirige vers la petite cruche, la soulève et fait couler jusqu'à la dernière petite goutte d'huile, l'équivalent d'une cuillerée. Maintenant, la farine, toutes ces choses ont une signification. La farine représentait Christ. Christ était l'offrande de farine. Quand on moulait la farine pour l'offrande agitée, pour Christ, c'est-à-dire Christ dans l'offrande agitée, dans l'Ancien Testament, on la moulait avec un certain type de meule, de sorte que chaque petit morceau de farine soit moulu exactement pareil, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vous souvenez, quand certaines des écoles là-bas, qui ne savaient pas distinguer les coloquintes des pois, ils avaient jeté des coloquintes sauvages dans un potage de pois pour les cuisiner. Et ils se sont écriés, « La mort est dans le pot !» Élie a pris une poignée de farine, il l'a jetée dans le pot et a dit, « Mangez !» Qu'est-ce que la farine a fait? La farine dans le pot l'a transformée de la mort à la vie, d'une ressource qui donne la mort à une ressource qui donne la vie. C'est la même chose ce soir. Quand il y a la mort dans votre vase, Christ jeté dans votre vase vous amène de la mort à la vie. C'est Christ qui fait la différence. Quand il entre dans un cœur humain, oh, il donne une paix qui surpasse l'intelligence. Et il donne aussi la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et il ne périra jamais. Or, elle avait de la farine qui représentait Christ. Et Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Christ, l'offrande de farine. Ensuite, elle est allée chercher l'huile, et l'huile représente l'esprit. Alors, elle a mis la parole et l'esprit ensemble. Elle s'est mise à mélanger ça. Oh, il doit se passer quelque chose quand cela arrive. Que cela se passe ce soir. Que la parole que je suis en train de prêcher tombe dans votre cœur. Ensuite, laissez le Saint-Esprit y entrer et mélanger tout ça. Observez ce qui arrive quand vous mettez la parole et l'esprit ensemble. Jésus a dit à la femme au puits, « Femme, je te le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu exige une adoration en esprit et en vérité. » Et il est la vérité. La farine, regardez ce qu'elle a fait. Elle a mélangé la parole et l'esprit. Beaucoup de gens ont l'esprit sans la parole. Certains ont la parole sans l'esprit. Mais si vous prenez tous les deux et que vous les mettez correctement à leur place, il y a un gâteau en route. Il y a quelque chose qui se prépare. La pauvre petite veuve ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Dieu avait dit à Élie, je lui ai ordonné. Et voilà Élie en route sur des pavés qui descend pour voir l'accomplissement de sa vision quelque part. Et la voici, se tenant là, essuyant ses larmes, avec sa vieille manche en lambeaux, et disant, « Oh Dieu Jéhovah, ma foi n'a jamais failli, et elle ne faillira pas. Pourtant, je ne sais pas ce qu'il en est de tout ça, mais on nous a enseigné que tout concourt au bien. » Elle mélangeait cette petite farine. Elle avait fini de confectionner le petit gâteau et de le préparer. Elle a dit, « Bon, il est temps que j'aille chercher du bois. » Elle recule, ouvre la porte et dit, « Oh Seigneur, ce pauvre petit ventre affamé là, et moi qui n'ai pas mangé depuis 2 ou 3 semaines, je lui ai donné ma part du gâteau. » C'est ça, une mère, l'amour d'une mère pour son enfant. Il n'y a rien de tel, excepté l'amour de Dieu. Une mère peut oublier le bébé qu'elle allait, mais jamais je ne peux vous oublier. Vos noms sont gravés sur mes mains. Comment peut-il vous oublier? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La voilà qui regarde son enfant. Elle est peut-être revenue pour embrasser son petit front. Peu importe s'il s'évanouissait et mourait dehors. Elle est sortie. Il commençait à peine à... Le soleil commençait à s'élever sur les collines de Judée. Elle regarde le soleil qui commençait à apparaître. Là-bas dans la rue, elle entend des jurons et tout. Puis elle se rend dans la cour et, remarquez, elle a ramassé deux morceaux de bois. Non pas une brassée, deux morceaux de bois. Qu'est-ce que c'est? La croix. Or, tout le monde sait, tous mes amis indiens ici savent, ou tout chasseur, que la bonne façon de faire durer un feu, c'est de croiser deux morceaux de bois, deux bûches, de les allumer juste au milieu, et de continuer simplement à les pousser vers le milieu. Il durera toute la nuit. Bien des fois, j'ai passé la nuit dans le désert, avec deux morceaux de bois pas plus gros que ça, et ça m'a réchauffé toute la nuit. C'est juste assez pour rester au chaud. Continuez à les pousser là, vers le centre. Or, que va-t-elle faire? Allumer ces deux morceaux de bois. Et la parole et l'esprit ont produit le sacrifice de soi sur la croix, prêt pour le service, prêt à recevoir la vie. Mettre la parole et l'esprit ensemble, c'est sa foi dans la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui l'amène à sacrifier toute autre chose à la croix. Et quand elle avait ce morceau de bois sous son bras, les deux morceaux de bois, et commençait à revenir, une voix s'est fait entendre depuis le portail. Madame, juste avant ça, il y avait un vieillard, peut-être chauve, avec des poils gris dans sa barbe, ses cheveux qui pendaient. Il avait un petit bâton à la main. Il était enveloppé d'une vieille peau de mouton, ou quelque chose comme ça. Il descendait la rue, disant, « Seigneur, c'est une certaine petite clôture blanche. Il y aura une charmante jeune femme. Elle était sûrement jeune. Le petit garçon était jeune. Là-bas, dans la cour, tu m'as dit que c'est cette veuve-là qui me nourrirait. Maintenant, où se trouve-t-elle? Je vais continuer à marcher. L'esprit l'a conduit par ici, puis l'a fait tourner. Oh, c'est tellement merveilleux, la façon dont les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Peu importe combien ça peut sembler ridicule, ils sont conduits. Elle va, il descend une rue et on remonte une autre. Il descend une rue et on remonte une autre. Au bout d'un moment, l'esprit a dit, regarde à ta droite. Et il regarde autour de lui, comme ça. Tout comme lui le fait ici sur l'estrade, soir après soir. Oh, Dieu est toujours le même. Regarde à ta droite, à ta gauche. Il y a quelqu'un en prière qui a besoin de ça. Et il a regardé à sa droite. Dis donc, voilà une petite clôture blanche. C'est bien ça. Je ne vais pas bouger d'ici, parce que voici le vieil arbre qui se trouve là. Et tout est parfaitement conforme à ce que j'ai vu dans la vision. La porte s'ouvre et une petite femme maigre sort. Or, souvenez-vous, elle va seulement ramasser deux morceaux de bois. Elle ne pouvait pas en avoir ramassé trois. Il en faut deux pour faire la croix. Elle a ramassé deux morceaux de bois, les a mis sur son bras et a commencé à revenir en se disant, « J'aurai préparé le petit gâteau quand Fiston se réveillera. » Ensuite, je le lui donnerai à manger, mais moi, je n'en mangerai pas. Et je prendrai mon petit garçon dans mes bras. Et là, nous nous assiérons et nous mourrons. Et elle a commencé à entrer dans la maison. Elle a entendu une voix étrange provenant de l'autre côté du portail qui a dit, « Femme, pourrais-tu aller me chercher un peu d'eau dans un vase ?» Elle s'est retournée et s'est dit, « Voilà un gentil vieux monsieur qui se tient à la porte. » Elle l'a regardé de près et peut-être, a-t-elle essuyé les larmes de ses yeux? Il était encore très tôt le matin. Vous savez, Dieu fait des choses de façon très étrange. Elle était prête à se sacrifier. L'eau était une denrée rare. Il n'avait pas plu depuis 3 ans et 6 mois. Pourrais-tu aller me chercher? C'était peut-être Dieu qui lui avait dit de dire cela pour voir ce qu'elle allait faire, pour éprouver sa réaction. Pourrais-tu aller me chercher un peu d'eau dans un vase? Et elle l'a regardé. Il a l'air d'être différent. Il y a quelque chose chez ce vieil homme qui me fait ressentir de la pitié. Tout croyant en Dieu partagera avec autrui jusqu'au possible. Oui, s'il y a bien une chose avec les pentecôtistes, c'est qu'ils sont prêts à tout donner pour la cause. C'est vrai, c'est la vérité. C'est une grande chose, l'une des plus grandes choses chez eux. Ils sont les plus grands donateurs au monde, parce qu'ils savent que les biens de ce monde ne valent rien. Ils amassent leurs trésors dans le ciel, parce que c'est là qu'ils iront un de ces jours. Alors cette femme, elle a dit, « Je vais simplement partager mon eau. Nous allons mourir, alors je vais sacrifier mon eau. » Elle a donné au gentil vieux monsieur qui se tient là, parce qu'il a l'air assoiffé et fatigué. Elle a dit, « Je vais la porter. » Et elle s'est mise à marcher. Et elle a de nouveau entendu une voix dire, « Et de ton autre main, pourrais-tu aller me chercher un petit morceau de pain ?» Oh là là, bon, maintenant, qu'en est-il? Son dernier espoir pour la vie de son enfant, le dernier espoir qu'ils avaient, et le pain serait fini, l'huile serait finie, tout serait fini, là. Mais elle a regardé en arrière, et elle a pensé, elle a dit, « Il ne me reste plus qu'un petit peu de farine dans un pot. Il me reste juste assez d'huile que j'ai utilisée pour l'humecter, et je l'ai déjà prêtée. Plutôt, je l'ai mélangée. J'ai mélangé la parole et l'esprit là-dedans. J'ai la croix ici pour poser le tout dessus, pour en faire un gâteau qui donne la vie. Et ça, c'est quand l'esprit et la parole se mélangent sur la croix. Ça produit un pain de vie pour vous. C'est vrai. Et j'ai mélangé tout ça. Et je rentre maintenant pour faire cuire le tout et en donner à mon petit garçon qui se meurt là, à l'intérieur, qui a pleuré toute la nuit pour obtenir quelque chose à manger. Je dois le lui donner. Je vais sacrifier ma part et je vais la lui donner. Et puis, je le prendrai dans mes bras et tous les deux, nous attendrons la mort. » Il a dit, « Mais prépare-moi d'abord un petit. N'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une femme veuve, mourante, le tout dernier repas qu'elle avait chez elle, avec un enfant mourant ? » Dieu fait les choses de manière très étrange. Il a dit, « Prépare-moi d'abord un petit. » Elle a observé attentivement. Vous savez, la Bible dit que nous avons logé des étrangers. Nous avons logé des étrangers, c'était des anges, sans savoir ce que nous faisions. Eh bien, a-t-elle dit, « Je vais le faire. » Et alors qu'elle se retournait, il a dit, « Car, oh là là, voilà, c'était ça, le plus grand réconfort qu'un croyant ait jamais entendu. Car, ainsi dit le Seigneur. » Voilà la parole qu'elle attendait. « Ainsi dit le Seigneur. Le pot ne se videra point et la cruche ne séchera point jusqu'au jour où Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Qu'est-ce que nous apprenons là? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses seront données par-dessus. Comment puis-je le savoir, frère Branham? Comment puis-je le savoir? Tout ce que je sais, c'est donner la première place à Dieu et avancer. Un sacrifice. Mélangez l'huile. Mélangez-la, la parole et l'esprit. Placez-vous sur la croix et dites, « Me voici, Seigneur, donnez la première place à Dieu en toutes choses. Car ainsi dit le Seigneur, la cruche ne séchera point et le pot ne se videra point jusqu'au jour où le Seigneur Dieu fera tomber la pluie sur la face du sol. » C'est là qu'elle a su que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Oh, son cœur a sûrement dû palpiter et s'est empressé de rentrer, a fait ce petit gâteau et le lui a apporté avec l'eau, les mains tremblantes posées sur ses joues creuses. Elle savait que Dieu était venu à leur secours à cause d'un petit morceau de pain. Oh, prenez simplement cette petite promesse de Dieu, mettez tout en ordre et ôtez tout du chemin. Regardez ce qui va se produire. Prenez ce cœur, ôtez-y l'incrédulité. Prenez simplement cette petite foi que vous avez, placez-la sur la croix et dites, « C'est tout ce que je possède, Seigneur. Prends-la !» Observez le tournant. « Ainsi dit le Seigneur. » Oh, il est vraiment le même, aujourd'hui, autant qu'il l'a toujours été. Voilà ce qu'elle attendait. Peut-être que les choses ont l'air horriblement sombres en ce moment. Mais vous savez, parfois, on nous apprend, et j'ai prêché là-dessus l'autre soir, qu'avant le jour, il fait plus sombre que jamais. C'est alors la plus sombre de la nuit que l'étoile du matin brille. Elle reflète l'arrivée du soleil. En Allemagne, ils ont un tableau qu'ils appellent le tableau des nuages. Ils rivalisent avec ce grand tableau de la crucifixion à Forest Lawn, à Los Angeles. Ce grand tableau est aussi large que ce bâtiment. Ils ont dû construire un bâtiment autour de ce tableau. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Mais celui en Allemagne s'appelle l'ange ou le jour des nuages. Je crois que c'est ça. Et quand vous vous en éloignez un peu et que vous le regardez, oh, ça a l'air hideux. On dirait des nuages menaçants qui s'entremêlent comme ça, quand les lumières se reflètent sur ça. Il semble que les nuages se déplacent, puisque ce tableau est peint de façon à refléter les lumières, afin de leur donner des aspects de nuages, d'une tempête menaçante qui s'approche pour tout détruire sur son passage. Et là, le guide vous dit, rapprochez-vous et continuez à le regarder. Et quand vous êtes vraiment tout près, ce ne sont pas des nuages, ce sont des ailes d'anges qui battent ensemble dans la joie. Il s'agit d'une bénédiction déguisée. Peut-être que votre maladie ce soir, peut-être que le sacrifice que vous avez fait pour venir ici n'était simplement qu'une bénédiction déguisée. Les anges de Dieu sont ici, présents, pour unir leurs ailes et se réjouir. Parce qu'il est écrit dans l'Écriture que les anges du ciel se réjouissent quand un seul pécheur se repent. Pensez-y. En effet, ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa grâce ne peut pas s'épuiser et il est prêt à vous donner tout ce que votre cœur désire. Maintenant, prions un instant. Pendant que nous avons la tête inclinée pour prier, et j'espère vraiment que vous resterez dans une attitude de prière. Y a-t-il quelqu'un ici maintenant, les yeux fermés, la tête inclinée vers la poussière d'où vous avez été tiré? Et si Jésus tarde, vous retournerez à la poussière. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, voulez-vous simplement lever la main comme ça et dire, « Frère Branham, moi aussi, j'ai mené une vie misérable et je ne suis pas sauvé. Souvenez-vous de moi dans vos prières ce soir, frère, je vais lever la main. » Est-ce que cette personne est ici, garçon, fille, homme ou femme, qui n'est pas sauvé? Je ne vous le demanderai plus. Levez simplement la main maintenant pour que je prie pour vous. À ma droite, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, et vous, ailleurs, là, tout au fond, quelque part ici, dans l'allée centrale, levez simplement la main, que personne ne regarde, que ce soit seulement moi et le Saint-Esprit qui regardions. Eh bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est bon, quelqu'un d'autre dans les allées centrales, levez la main, dites, « Frère Branham, je ne suis pas un chrétien, j'ai tellement éloigné le Saint-Esprit de moi qu'il ne m'affecte même plus, mais en réalité, je sais que j'ai tort. Je sais que je n'ai jamais été né de nouveau du Saint-Esprit. Je sais que je ne suis pas digne. Je n'ai rien. Je n'ai pas confessé tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas rempli toutes les conditions de Dieu. Peut-être êtes-vous malade. Les choses ne s'amélioreront pas tant que vous n'aurez pas rempli les conditions de Dieu. Frère Branham, j'ai confessé le christianisme pendant longtemps, mais en réalité, j'ai toujours douté de la guérison divine. Je me suis plus ou moins demandé si ce Saint-Esprit était réel. Oh, ma chère sœur, ou mon cher frère, vous ne pouvez jamais rien obtenir de Dieu de cette façon. Non, vous devez remplir toutes les conditions. Ensuite, vous assurez d'être en ordre avec Dieu. Puis, prenez sa promesse et accrochez-vous-y. À ma gauche, y aurait-il quelqu'un là-bas? Certains d'entre vous, les jeunes, là-bas. De même, si vous n'êtes pas chrétien, levez la main et dites, « Souvenez-vous de moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse. Je vois vos mains, tout là-bas, là-bas au fond. Je vous vois, madame. Ici, oui, là-bas, tout là-bas, de ce côté-ci. Oui, la petite fille. Oui, oui, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes là-bas. C'est bien. Bon, je vous ai promis ici que je ne vous demanderai que ça, de lever simplement les mains. Maintenant, nous allons prier. Et avant de le faire, maintenant, après que les pécheurs ont levé les mains, il y en a une vingtaine ou une trentaine. Combien sont malades? Voulez-vous bien lever la main et dire, « Souvenez-vous de moi, frère Branham, dans vos prières, pour que Dieu ait pitié de moi et qu'il me guérisse. » Je suppose qu'il y en a 200 ou plus. Très bien. Prions. Notre Père Céleste, c'est une telle grâce de venir à toi avec ces requêtes. Et à moi, je suis votre Créateur. Ils ont levé la main, alors cela prouve bien que l'Esprit est supérieur à la science. Père, tu as dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. » Maintenant, ils sont à toi, Seigneur. Donne-leur la vie à cet instant même, là où ils sont assis à leur place. Puisse-t-il avoir la vie éternelle. Puisse-tu les ressusciter au dernier jour, les présenter au Père, le Dieu du ciel, comme des joyaux de la couronne de l'Église. Accorde-le, Père. Je prie pour ceux qui sont malades et affligés. Beaucoup de leurs mains se sont levées ce soir parce qu'ils ont vu une femme qui avait vraiment besoin de Dieu. Elle avait vu ces heures cruciales arriver. Il y a sans doute beaucoup de gens assis ici, dans cette même situation, qui doivent mourir. Mais Dieu a déjà ordonné à ses prophètes, et tout va bien. Ça ira très bien. S'ils sont certains que tout va bien, alors ils sont certains de Dieu. Ils sont certains qu'il tient sa promesse. Alors Père, nous te prions de traiter avec eux ce soir, tes enfants bien-aimés qui sont malades, et de guérir leurs afflictions, de leur donner la puissance, la grâce et la foi. Fais-le, Père. Bénis tous les ministres qui sont ici ce soir, tes précieux prophètes. Nous te prions de les oindre, Seigneur. Et puissent-ils être ceux qui béniront les foyers de ces gens, pour qu'il y ait du pain de vie dans leur foyer aussi longtemps qu'ils vivront. Puissent leurs cruches ne jamais sécher, ni leurs pots se vider. Puisse-t-il y avoir du pain spirituel dans chaque église de toute cette contrée, Seigneur, pour qu'il puisse nourrir les affamés qui sont dans le besoin. Accorde-le, Seigneur. Nous t'aimons et nous savons que tu nous as aimés le premier, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, l'innocent pour les coupables, pour être la victime expiatoire pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Alors que nous étions perdus et finis, sans Dieu ou son Fils, depuis le jardin d'Éden, depuis les transgressions de nos pères, cela nous a amenés dans le chaos du péché. Et Jésus nous a tant aimés qu'il est venu par la volonté de Dieu nous racheter et nous ramener à Dieu par l'offrande de sa propre vie au calvaire. Merci Père, pour toute ta bonté. Nous vivons dans les ombres du temps de la fin. Il n'y aura peut-être pas de lendemain soir. Je ne sais pas, Seigneur. Ça dépend de toi. Mais pendant qu'il est encore possible que certains puissent entrer ce soir, Père, je te prie d'envoyer le Saint-Esprit. Tu as dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Au jour de Sodome, ils avaient trois catégories de gens. Les pécheurs, les membres d'église tièdes et les élus, les appelés à sortir. Les sodomites, les lotites et ceux d'Abraham, les appelés à sortir du monde. Les sodomites ont reçu deux ministres qui avaient un grand message. Et le groupe d'Abraham a reçu un signe. Et ce signe, c'était un homme qui avait de la poussière sur ses vêtements, qui connaissait Abraham alors qu'il était un étranger. Il connaissait sa femme, Sarah, comment elle s'appelait. Et alors qu'il avait le dos tourné à la tente dans laquelle se trouvait Sarah, il a dit à Abraham, « Pourquoi a-t-elle ri ?»« Oh Dieu, puisse l'Église se réveiller et voir. » Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce même Dieu apparaîtrait dans la chair de son Église. Il montrerait le même signe. Accorde le Seigneur encore ce soir. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je l'aime. Je l'aime. Maintenant, adorez-le doucement dans l'esprit. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, après un message, vous vous sentez tout récuré, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui nettoie votre cœur de toute incrédulité, qui vous remet en ordre avec Dieu. Oh, maintenant, c'est le moment de l'adorer. Le message est terminé. Alors, adorons-le encore une fois avec ce cantique, alors que nous chantons « Je l'aime ». Tout le monde, tranquillement et doucement maintenant, fermez les yeux et regardez simplement vers lui avec vos yeux spirituels. Voyez ce qu'il a fait pour cette veuve-là. Vous êtes aussi cher à ses yeux que cette veuve. Il a aussi gardé votre vie. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Aucun autre nom que Jésus. La note la plus douce du chant d'un séraphin. Le nom le plus doux sur la langue d'un mortel. Le chant le plus doux jamais chanté. Ô Jésus, précieux Jésus. Pendant qu'il joue cet air à l'orgue doucement, quand j'entends ce cantique, ça me rappelle une chose. Il y a quelque temps, à Fort Wayne, Indiana, il y avait une jeune fille d'Uncud, assise là. Elle jouait du piano. Elle n'était pas pentecôtiste, mais elle avait de longs et beaux cheveux relevés à l'arrière. Et j'étais sur le point de prier pour les malades. Et la première personne dans la ligne, c'était un petit garçon. Il était infirme, un cas de polio. Et j'ai pris ce petit garçon des bras de la sœur, j'ai tenu le petit garçon et j'ai dit, « Assurément, le grand médecin est ici. Il connaît les secrets de tous les cœurs. » Et j'ai dit, « Vous croyez ça ?» à un auditoire de plusieurs milliers de personnes. Oui, ils le croyaient tous, mais ils hésitaient un peu. C'était le premier soir de cette série de réunions. Ils étaient, le message était difficile à comprendre pour eux. Et j'ai dit, « Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut me dire qui est ce petit garçon et quel est son nom? Croiriez-vous? Ne serait-il pas le même ange qui a rencontré Abraham, qui a su ce que Sarah? Ne serait-il pas le même Jésus qui connaissait Nathanaël quand il est arrivé, qui connaissait Pierre et l'a appelé par son nom, qui a parlé à la femme au puits et tout? Ne serait-il pas le même Jésus? » Ils ont tous levé les mains. Ils se sont dit que c'était le cas. Et le Saint-Esprit a commencé à révéler ces choses. Et quand il l'a fait, le petit garçon a sauté de mes bras. Il a couru et a sauté de l'estrade. Sa mère s'est évanouie sur son siège, qui était juste en face du petit garçon. Et ce petit garçon courait dans tous les sens. La jeune fille Amish, ou plutôt Duncan, qui jouait du piano, elle est devenue toute pâle. Elle s'est levée d'un bond en pleine réunion et ses cheveux sont retombés sur son dos. Elle portait une robe blanche. Elle avait l'air d'un ange. Elle s'est mise à chanter ce cantique dans des langues inconnues. Et entre-temps, le piano n'a pas manqué une seule note. Il jouait « Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Aucun autre nom que Jésus. » Les gens sont venus en masse autour de l'autel. Ils pleuraient, ils tombaient dans les allées et criaient, « Ô Dieu, aie pitié de moi !» Oh, quelle réunion c'était! Ce grand médecin est toujours là. Il n'a pas failli. Il ne peut jamais faillir. Maintenant, combien ici croient cela, solennellement, de tout votre cœur, que vous êtes là ce soir dans l'expectative d'être guéri par la puissance de Dieu? S'il y a quelqu'un que je connais dans la salle, en dehors de ceux qui sont ici, de ses frères qui sont assis ici, il y en a trois avec qui j'ai parlé l'autre jour, lors d'un entretien, qui viennent de l'Arkansas, frère Pat Tyler, qui est un gangster converti. Frère Williams, assis là, et autant que je... Et frère Jean Gold, mon copain, assis ici. Et je suppose que ce sont les seuls que je vois dans le bâtiment en ce moment que je connaisse. mais par ici, je connais ces gens assis ici. Eh bien, je me suis tenu avec le Coran dans une main et la Bible dans l'autre, devant 100 000 personnes, et j'ai dit que l'un doit être vrai et l'autre faux. Et la religion chrétienne est la seule de toutes les religions, et le plein évangile est le seul groupe d'entre eux qui peut prouver que Jésus-Christ vit encore. Les autres ont la théologie, et ils vous diront à ce sujet, nous possédons tout autant de psychologie. Les Mahométans disent, nous possédons tout autant de psychologie. Nous pouvons pousser des cris tout aussi forts pour notre prophète que vous pour votre Jésus. Mais notre prophète ne nous a jamais rien promis. Votre Jésus vous a promis qu'il ressusciterait d'entre les morts et que vous feriez aussi les choses qu'il a faites, parce qu'il vivrait en vous. Maintenant, vous dites que notre prophète est mort, là, dans la tombe, et que vous avez un Jésus ressuscité. Voyons-le agir. Ils mettront... Ici, on peut prendre les choses à la légère avec certains de ces théologiens au sujet de certains mots grecs ou de quelque chose dont vous êtes vous-même tout embrouillé. Mais n'essayez jamais de soumettre les choses à une épreuve de force avec certains de ces gens-là. Vous feriez mieux de posséder ce dont vous parlez et vous feriez mieux de le savoir. Voilà pourquoi il est difficile d'avoir des missionnaires là-bas. Ces gens savent de quoi ils parlent. Et vous feriez mieux de savoir de quoi vous parlez, parce qu'ils vous mettront au défi là-dessus. Mais je suis si reconnaissant ce soir de savoir, mes amis, que notre Jésus et chaque promesse qu'il a faite est la vérité. Si je pouvais guérir quelqu'un ici, je le ferais. Si je ne le faisais pas, je serais un hypocrite. Mais je ne peux pas le faire. Mais Dieu a fait un don à l'Église qu'il avait promis. En effet, à l'époque de Luther, nous vivions par la justification. À l'époque de Wesley, nous vivions par la sanctification. L'Église était devenue une minorité. Tout au long de l'époque de la Pentecôte, nous vivions par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Maintenant, nous sommes vraiment une minorité. La venue du Fils de Dieu. Là, ils ont cru par la foi. Là, ils ont poussé des cris sous la sanctification. Là, ils ont parlé en langue, un don. Mais maintenant, le négatif est le positif. Et là, la pierre de fait est en train de descendre sur la pyramide. Et c'est le temps de la fin, où Christ et son Église se ressemblent tellement que ça appellera les morts à sortir de chez les méthodistes, de chez les luthériens et tous les autres là-bas. Et il y aura une résurrection. Ceux qui se sont endormis à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième veille ressusciteront un de ces jours pour rencontrer Jésus dans les cieux. L'heure est arrivée, mes amis. La venue du Seigneur est proche. Nous regardons Jérusalem et nous voyons que les Juifs ont été aveuglés à cause de nous. Le figuier est en train de bourgeonner, il a dit, et les autres arbres. Billy Graham a déclenché un réveil parmi les gens des dénominations. Oral Roberts a déclenché un réveil parmi les pentecôtistes. Et maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, est venu vers ce reste pour attirer les gens pour la pierre de fête, pour ramener le Fils de Dieu, afin d'achever la chose pour la venue du Seigneur Jésus. Il a dit, « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Je vais vous tourner le dos, pas seulement pour que vous voyez. Or, souvenez-vous, il ne s'agissait pas de l'homme. L'homme qui était là n'était qu'un peu de calcium, de potasse et de pétrole. 16 éléments du monde. Dieu a fait, il les a soufflés ensemble. Il y est entré et il a vécu. C'était pareil pour Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était homme. Son esprit était Dieu. Alors, il a promis que dans les derniers jours, il viendrait dans son Église. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez, maintenant, ce grand médecin est ici. Or, il a dit, le signe de Sodome et Gomorre. Or, qu'est-ce que c'est? Regardez nos journaux. Les homosexuels, la perversion, c'est en hausse de 40% depuis les 10 dernières années. Des tremblements de terre, dans divers lieux, toutes sortes de signes de l'avenue, l'apostasie de l'Église. Le temps de la fin est là. Maintenant, Dieu est aussi en train de montrer ses signes, comme nous l'avons prêché. Or, si cette Bible est vraie, et elle l'est, je suis prêt à mourir pour cette cause. La Bible est vraie. Jésus-Christ vit. Nous sommes son Église, remplie de son Esprit. Alors sa vie en nous produira la même vie qu'il a vécue dans le Fils de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu vit en nous, pour la gloire de Dieu et dans l'intérêt de l'Église, et pour votre maladie, vous qui êtes malade et affligé, touchez le bord de son vêtement et voyez si vous pouvez le faire parler à travers moi en tant que son serviteur. Vous désignez comme il a désigné la femme qui avait touché son vêtement. Puisse le Seigneur l'accorder. Cela vous amènerait-il à croire davantage et à accepter votre guérison? Combien d'entre vous croient qu'ils pourraient accepter leur guérison si Dieu vous désignait de la sorte? Ou si vous le voyez le faire, levez la main. Puisse le Seigneur l'accorder. Voulez-vous bien continuer à jouer le grand médecin? Je me sens conduit à le faire. Je vais me tourner de nouveau vers mes amis ici ce soir, simplement pour vous regarder. Mes frères, je ne cherche pas vous. Dieu est mon témoin, frère David. Tout comme je l'ai clairement fait savoir aux gens, il ne s'agit pas de moi. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis simplement... Dieu devait utiliser quelqu'un. Il et aucune main n'est digne. Mais c'est Dieu qui les rend dignes. Voyez-vous, il choisit, avant la fondation du monde, son but à atteindre. Il faut qu'il soit atteint. Il faut qu'il s'accomplisse. L'Église sera là, sans tache ni ride. C'est la grâce de Dieu qui le fera. Forcément, il faudra la grâce. Comme il a parlé à Abraham, quand Sarah a douté de lui, eh bien, sur le champ, il aurait tué Sarah sur le champ pour avoir douté. En effet, c'est le pire des péchés, l'incrédulité, et c'est le seul péché. Et elle a douté, et elle a ri en elle-même, quand l'ange a discerné ses pensées dans la tente. Pas vrai? Mais pourquoi n'a-t-il pas pu prendre Sarah? Parce qu'elle était une partie d'Abraham. Il aurait été obligé de prendre aussi Abraham. Et nous sommes une partie de Jésus, quand nous sommes dans le corps de Christ. Nos incrédulités sont excusables. Si nous le faisons par ignorance comme elle, car elle avait eu peur. Croyez-vous qu'il y a quelque chose qui apparaît sur l'estrade? Oh, comme j'aimerais vous expliquer ceci. Je dois me tourner. Je vois une femme qui a une irritation de la peau. Vous l'avez touché. Ça va vous quitter parce que la lumière est tout autour de vous. Si tu peux le croire, tout est possible. Maintenant, croyez, afin que vous voyez que ce n'est pas de la psychologie, que je ne lis pas dans vos pensées. Je vais vous tourner le dos. Qu'en est-il de vous de ce côté-ci? C'est déjà arrivé dans l'Angeles Temple, ma sœur. Frère David, vous vous en souvenez. Maintenant, je suis simplement pour que vous voyez. Je m'adresse à vous. Ça montre que je n'ai aucun contact avec les gens là-bas. Certainement que vous comprenez. Je sais que vous comprenez. Voyez, mais je demande la grâce de Dieu de faire quelque chose pour que les gens sachent. Oui, je vois une jeune personne, une jeune fille. Elle vient d'ailleurs. Elle n'est pas de cette région-ci. Elle vient d'une région pluvieuse qui a beaucoup d'arbres et de mousse. Elle vient de l'Oregon. Elle a des crises d'épilepsie. Elle est assise là-bas. Croyez-vous que Jésus-Christ vous rétablira? L'acceptez-vous pour elle? Levez-vous, ma sœur. Rentrez chez vous et je réprime le diable. Croyez-vous de tout votre cœur? Très bien. Dans l'allée centrale ici, il y a quelqu'un qui a la foi. Ne doutez pas. Je vais vous parler, frère Schultz, pour que vous voyez que c'est à vous que je m'adresse. Je laisse quelqu'un là-bas, il n'y a pas de carte de prière. Alors ce n'est vraiment pas pour faire monter quelqu'un ici, mais pour que les gens puissent voir. Oui, il y a une femme un peu mince. Elle a un cancer. Elle devait se rendre à l'hôpital aujourd'hui. Elle est assise devant, ici, une femme un peu mince. Elle s'appelle Mademoiselle Peterson. Voyez, Très bien, madame. Ayez foi en Dieu. Puisse le Dieu du ciel tuer ce démon au point qu'il ne soit plus jamais vu par qui que ce soit d'autre.
Do you believe on the Son of God? Do you believe him with all your heart? Just have faith in him, that's all you have to do.
Croyez-vous au Fils de Dieu? Le croyez-vous de tout votre cœur? Ayez simplement foi en lui. C'est tout ce que vous avez à faire. Très bien. Êtes-vous tous prêts à croire de ce côté-ci? Je vais parler à ce prédicateur-ci. Croyez-vous de tout votre cœur? J'espère que quelqu'un là-bas aussi croit. Pour que vous sachiez que c'est à vous que je m'adresse. Mais vous voyez que la puissance de Dieu couvre toutes les choses mentales. Elle entre dans l'esprit de la dimension de l'esprit. Oui, derrière moi, il y a une femme, et elle ne sait pas ce qui ne va pas chez elle. Elle est, oh, cette pauvre femme, elle a eu une, deux, trois, quatre, cinq opérations. Ils ne savent pas ce que c'est. Les médecins ne savent pas ce que c'est. On l'a envoyée ici, en Arizona, pour qu'elle se repose. Elle vient de la Louisiane. Elle s'appelle Madame Pearson. Très bien, Madame Pearson. Quelque part derrière moi, levez-vous, regardez-moi. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Je ne vous connais pas. Si c'est vrai, faites signe de la main. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Ce qui a été dit est vrai, n'est-ce pas? Les médecins ne savent pas ce qui se passe avec vous. Ce sont vos nerfs. Soyez bien tranquilles. Ayez la foi et vous rentrerez chez vous guéri. Ayez foi en Dieu. Croyez-vous que le Fils de Dieu est ressuscité? Maintenant, qu'en est-il de quelqu'un de ce côté-ci? Vous êtes tous prêts à croire ici? Pat, es-tu heureux d'être un chrétien? C'est merveilleux de sortir de la vie que tu menais et d'être un chrétien, n'est-ce pas? Voici une dame. Il y a une femme, un homme et un enfant. Cette dame est en contact avec Dieu. Elle est derrière moi. Et elle a une sorte de problème à l'estomac. Elle a une faiblesse suite à ça. Elle n'est pas d'ici non plus. Elle vient d'une contrée un peu désertique. Eh bien, elle vient du Kansas. Son mari est un ministre. La voilà, assise là-bas. Je ne vous connais pas. Si c'est vrai, madame, faites signe de vos mains comme ça. Très bien, monsieur. Très bien. Rentrez chez vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez guéri. Croyez-vous au Seigneur? Partout dans la salle maintenant, croyez-vous au Seigneur? Certainement, il est ici. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a pu montrer à Lee où cette femme veuve se trouvait. Ce même Dieu peut me montrer où vous vous trouvez, où vous êtes assis en train de prier. Parce que c'est l'Esprit de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le croyez-vous? Que chaque personne présente pose ses mains les uns sur les autres pendant que je prie pour vous de manière générale, ici même, et croyez pour que vous sachiez que vous avez un rôle à y jouer, chacun de vous. Vous êtes des croyants, n'est-ce pas? Si vous l'êtes, dites Amen. Dans la présence de Dieu, dans la preuve infaillible de la résurrection de Jésus-Christ, posez vos mains les uns sur les autres et priez les uns pour les autres. Notre Père Céleste, je te donne cet auditoire qui attend. Puissent tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés trouver une bonne église locale. Puissent ceux qui sont malades, Seigneur, être guéris. Puisse la puissance de Satan sur leur vie être brisée maintenant même, alors que je réprime le diable et je demande que la puissance de Jésus-Christ descende sur cet auditoire et enlève toute maladie, toute infirmité, toute affliction, tout doute. Chasse-la du milieu d'eux, Seigneur, et guéris-les. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je le demande.